Psaume 67, on avait commencé à partager une pensée la semaine dernière, et puis on va ce matin bien ensemble encore et toujours sonder la parole de Dieu. Le psaume 67 est un psaume, on va dire, d'un chef de cœur. On n'a pas son nom. Beaucoup de psaumes ont été inspirés par le Saint-Esprit à David, d'autres à d'autres, et puis celui-ci, bien, on pourrait dire qu'il est inspiré à un inconnu, on n'a pas son nom. Mais Dieu ne cherche pas le nom, que ce soit David ou l'inconnu. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui est disposé à recevoir. Et ce matin, qu'on ait un nom connu, ou un nom moins connu, voire un inconnu, ce n'est pas du tout un problème pour Dieu. Ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs qui soient réceptifs, qui soient sensibles à sa voix. Et ce qui fait ce matin la gloire de notre Père Céleste, ce n'est pas notre nom à nous, c'est le seul nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Alors qu'il soit inconnu, qu'il s'appelle David ou X ou Y, peu importe, cette parole, elle est pour nous ce matin. Et voilà ce que dit ce frère qui, à un moment donné, a été sensible au Saint-Esprit pour écrire ce psaume. Il dit ceci: que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Et puis après, inspiré par le Saint-Esprit, il met une pause, c'est-à-dire un arrêt qui nous conduit, comme je le disais, dans une réflexion, dans quelque chose qui doit nous interpeller. Alors on va lire la suite, mais on va s'arrêter pour nous ce matin sur ce verset. Alors la suite: ainsi on connaîtra ta voix sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse. Tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. On fait une pause encore. Et là, on pourrait se dire, mais Seigneur, pour l'instant, ce n'est pas ça sur cette terre. Toutes les nations ne se réjouissent pas, toutes les nations ne sont pas dans l'allégresse. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, il y a une dimension prophétique qui nous échappe encore. Il y a des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Mais ce n'est pas parce que ces promesses ne sont pas encore accomplies que ça ne doit pas être écrit. Et il y a des réalités ce matin qu'on ne vit pas encore, mais qui pourtant sont promesses de Dieu, sont plans de Dieu. Oui, un jour, toutes les nations se réjouiront, seront dans l'allégresse devant Dieu. On parle du millénium, par exemple, où la Bible nous dit que toutes les nations apporteront à Dieu bien la gloire qui lui est due. C'est une dimension prophétique qui nous échappe, mais qui est une réalité. Et puis les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Amen. Alors on va revoir ce matin bien cette belle réalité du premier verset: que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. On avait partagé cette pensée dernièrement. Et puis, il y a le complément: qu'il fasse briller son visage sur nous. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Cette parole, cette réalité, bien, ce psalmiste inconnu va également bien la recevoir de la part du Saint-Esprit, comme David, qu'il écrira également, comme d'autres, on le verra tout à l'heure. Mais c'est une expression ce matin qui m'interpellait et qui, j'espère aussi, sera vous encourager, sera vous renouveler. Notre prière, notre proclamation ce matin, c'est qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu fasse briller son visage sur nous. Qu'il fasse briller. Il y a un chant qui dit « Adorons le Seigneur ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Qu'il fasse briller, qu'il fasse briller. Nous sommes donc face ce matin à une vérité extraordinaire qui nous dépasse, c'est que Dieu est lumière. Tout ce qui est en lui, tout ce qui est lui, tout ce qui émane de lui est éclat et splendeur et beauté et majesté et gloire. Et encore, tous ces adjectifs ne sont rien. En comparaison de ce qu'il est, il dépasse notre entendement, il dépasse notre imagination. Il n'y a en lui aucune onde de variation, comme dira Jacques, il n'y a aucune pénombre, il n'y a aucune ténèbre, il n'y a aucune parcelle d'ombre. Il Il est lumière, il est éclatant de majesté. Ce qui nous l'est nous dépasse. On a un petit exemple terrestre, vous vous en souvenez, avec la transfiguration de Jésus. C'est un petit exemple, c'est une manifestation de la gloire céleste sur la terre. Et nous le savons, hein, il y a Élie et Moïse, et là, à ce moment-là, il y a trois disciples. Vous vous en souvenez, il y a Pierre, Jean et Jacques. Et ils vont être marqués à vie par ce qu'ils vont voir, par ce qu'ils vont entendre. Et on a Pierre, hein, qui est comme d'habitude celui qui va prendre l'initiative. Et là, dans ce moment où ils ne savent pas trop ce qui se passe, il y a Pierre qui dit, bien, dressons ici trois tentes, voilà, une pour chacun d'entre vous, etc. Hein, mais la Bible nous dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Tant ce qu'il voit l'impressionne, le marque, la gloire ici de Jésus, la Bible nous parle de ce visage, hein, qui est resplendissant. Et dans Luc 1,9, on peut relire ce texte, mais il est dit que à ce moment-là, eh bien, le visage de Jésus va rayonner. Et ce n'est qu'une partie de la gloire de Dieu. On est sur la terre, on n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, on peut imaginer que cette gloire sera multipliée par je ne sais pas combien. Et pourtant, déjà, cette gloire terrestre ici, en tout cas cette gloire sur la terre plutôt, eh bien, va impressionner les disciples. Hein. Luc 9, et on peut lire juste ce verset. Verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. L'aspect de Jésus va changer. Un tel point que Pierre dira plus tard dans ses écrits que, bien, ils ont été impressionnés, c'est vrai, sur cette montagne de la transfiguration, parce qu'ils avaient vu et parce qu'ils avaient entendu. Alors, il y a un autre exemple, et on va le lire ensemble. Dans Acte 7, où quelqu'un, eh bien, dans un moment particulier, va vivre ce que signifie que le visage de Jésus brille sur lui. Et vous le savez, eh bien, c'est Étienne. Étienne, dans Acte 7, 54, vit ses derniers moments sur cette terre. Il ne le sait peut-être pas encore, mais là, il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans ces moments. Au verset 54, il est dit ceci. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Se précipitèrent tous ensemble sur lui, ils le traînèrent à l'extérieur de la ville, se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne et priaient et disaient « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Dans ce texte, ce récit extraordinaire, Jésus va faire briller son visage sur Étienne. Et là, il y a un impact extraordinaire sur lui, mais aussi, bien sûr, sur tous ceux qui sont autour de lui. Jésus, dans sa gloire, va faire briller son visage sur Étienne. Et ici, bien, Étienne est déjà dans le ciel, il est déjà dans la gloire. Son esprit, son âme sont déjà en communion avec son Sauveur. Et tout d'un coup, j'imagine, que pour lui, bien, tout devient si beau, si simple, si évident. Et il voit Jésus debout, ce visage qui rayonne sur lui-même. Et dans ce moment, bien, il est déjà avec son Seigneur, avec son Sauveur, qui l'accueille dans la gloire. Même lors de la lapidation qui est cruelle, eh bien, le terme employé nous parle de sérénité, nous parle de cette tranquillité d'esprit, de corps et d'âme. Il s'endormit. Il s'endormit. Il a vu le visage de Jésus qui rayonne à ce moment-là sur sa propre vie. Et Étienne, eh bien, est serein, il est paisible. Il part ainsi à la rencontre de son Seigneur. De manière générale, ce matin, lorsque Dieu fait briller son visage sur nous, eh bien, c'est également des moments de communion particuliers, de communion intime avec lui, où nous pouvons ainsi, comme Étienne et comme bien d'autres, avoir comme si le temps s'arrêtait. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ces moments avec le Seigneur. On est plongé dans sa parole, on est en train de l'adorer, on est en train de le bénir, et son visage brille sur nous à un tel point qu'on en oublie peut-être l'heure, on est dépassé. C'est comme si le temps s'était figé, s'était arrêté. Il n'y a plus que lui et nous, il n'y a plus que nous et lui dans sa présence. Et il y a le beau psaume 27 qui nous rappelle justement cette belle réalité ce matin, que le visage de Dieu brille et qu'il brille ce matin sur nous, sur nos visages, mais qu'il brille. Le psaume 27, verset 1 à 4, nous dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Et Étienne est en train de vivre ce moment. Il est en train de contempler la gloire de Jésus, ce visage qui brille sur lui. Et désormais, son âme, son esprit sont rassasiés, sont paisés. Que Dieu, ce matin, bien fasse briller sa face sur nous, afin que nous puissions expérimenter cette sérénité, ce calme, ce moment hors du temps, où nous sommes dans la présence de Dieu, où nous sommes avec lui, en communion avec lui, et lui en communion avec nous. Par contre, pour les opposants à Dieu, cette lumière va susciter des réactions opposées. Cette lumière est insupportable. Si nous pouvons la supporter, si nous, elle nous remplit, on verra tout à l'heure quelques effets. Et pour ceux qui sont des ennemis de Dieu, pour ceux qui refusent de Dieu, pour ceux qui s'opposent à Dieu, elle devient insupportable. Elle révèle tout simplement leur propre cœur. Elle révèle leur état de cœur. Et cette lumière qui est supportable, acceptée par les enfants de Dieu, devient insupportable pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Elle devient même aveuglante. Vous vous souvenez ensuite, quelques versets plus tard, dans Actes 9, 3, 8, il y a l'expérience de Saul de Tarse. Et la Bible nous parle d'une lumière plus puissante, plus aveuglante que celle du soleil à son midi. Et là, pour Saul de Tarse, le persécuteur à ce moment-là, elle va devenir aveuglante. Pendant 3 jours, il ne peut pas voir, bien que ses yeux soient ouverts. Il va être aveuglé par la lumière de Christ. Il deviendra son enfant ensuite, nous le savons. Ses yeux spirituels et humains vont s'ouvrir. Mais que ce matin, Dieu fasse briller son visage sur nous. Amen. Que sa lumière nous entraîne, que sa lumière brille, et qu'elle se révèle dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. Un autre chant nous dit: brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Couvre nos visages, couvre nos cœurs, couvre nos maisons, brille. Le Seigneur ce matin veut briller. Que Dieu fasse briller. Et puis, le psalmiste ajoute quelque chose de particulier: que Dieu fasse briller son visage. Son visage. Peut-être que certaines traductions, vous avez que Dieu fasse briller sa face, mais j'aime l'idée du visage. J'aime l'idée du visage, la traduction du visage. Dieu a un visage. Dieu a un visage, une expression. On verra tout à l'heure, Dieu n'est pas anonyme, sans nom, mais Dieu a un visage, et finalement, il va nous donner un visage au travers de Jésus-Christ. Même si nous ne l'avons pas vu, c'est réconfortant pour nous ce matin de savoir que Dieu a un visage, Dieu a une expression. Dans le psaume 115, versets 4 à 7, il est rappelé ceci, cette réalité de l'idole. Et il est dit ceci au verset 4 à 7 du psaume 115. Il est dit ceci: leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Les idoles ont aussi un visage, hein, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être aussi le visage de la passion, le visage de l'égoïsme, le visage de la religiosité. Tout ça, ce sont des visages, là aussi, qui peuvent marquer certaines consciences. Ce matin, ce texte nous dit bien que malgré le visage, malgré les pieds, bien, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne répondent pas. Mais ce matin, nous avons un Dieu qui n'est pas anonyme, un Dieu qui n'est pas fait de main d'homme, mais un Dieu qui a un visage. Et simplement une question peut-être ce matin, quel est dans le visage l'élément, la partie, à votre avis, qui est la plus expressive? Dites-moi voir. Les yeux, il me semble, hein, il me semble. Qu'à travers les yeux, ce matin, eh bien, il y a une expression particulière. D'ailleurs, on l'a lu, hein, on l'a vu avec cette période masquée. On arrivait quand même encore parfois à discerner une expression sur un visage par les yeux. Heureusement, hein, qu'on a pu encore avoir certains regards parfois qui pouvaient s'exprimer. Les yeux. En tout cas, ce matin, Dieu n'est pas anonyme, il a un visage, ce n'est pas une idole. Et ainsi, ce qui est rassurant, bien, il a des oreilles pour entendre, pour nous écouter. Il a un regard aussi pour nous voir. Il a une bouche pour nous conseiller, pour nous donner des conseils, pour des recommandations. Et ce matin, bien, Dieu a un visage. Fais briller ton visage. Fais briller ton visage sur nous. Alors, à travers, bien sûr, les yeux, comme vous l'avez dit, qui est certainement l'élément le plus expressif, bien sûr, du visage, nous savons qu'à travers les yeux, le regard, tous les sentiments peuvent passer. Hein, nous le savons. C'est l'amour, la tristesse, l'incompréhension, la stupéfaction, la supplication, la haine, la résignation, etc. etc. Ces sentiments, notre personnalité passe à travers le regard. On se souvient ce matin de l'Écriture, de cette rencontre entre Jésus et puis un homme ou un jeune homme riche, comme vous voudrez. Et puis, il y a cette déclaration de Marc, « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Ça ne veut pas dire qu'en le voyant, Jésus a discerné en lui quelque chose qui était aimable. Parce que si c'est ainsi, rien en nous n'est aimable. Rien en nous ne pourrait supporter, mériter l'amour de Jésus. Il nous aime par grâce, c'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup. C'est tout, et puis là, c'est vraiment tout. Il nous aime par grâce. Ça veut dire simplement que Jésus, à ce moment-là, le regard de Jésus portait son amour pour lui. Le regard de Jésus était déjà chargé de cet amour. Ce n'est pas parce qu'il a détecté en lui quelque chose qu'il a dit, ben voilà, il est aimable et je l'aime. Non, Jésus porte en lui cet amour et ce matin, le regard de Jésus se pose sur chacun d'entre nous. C'est un regard plein de bienveillance, de compassion, rempli d'amour. Dieu a un visage, Dieu a une expression. Et cette expression peut passer aussi, bien sûr, par le regard. Il passe par sa parole, nous le savons, mais le regard de Jésus. Il y a un beau vieux cantique également qui nous dit ceci. Son regard se pose sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Hein, vous connaissez ce beau vieux cantique. Hein, Jésus est au milieu de nous. Voilà, c'est ça. Jésus est au milieu de nous. Hein, son regard s'abaisse sur nous. Ce matin, nous pouvons croiser ce tel regard. Dieu a un visage, que Dieu fasse briller son visage sur nous. Et en général, l'expression est communicative. Hein, dans un moment, quand des visages sont tristes, eh bien, on est triste. Quand un visage est heureux, là aussi, ça se transmet. Un visage qui exprime. Le regard de Jésus se pose aussi sur nous ce matin, un regard plein de bienveillance, de bonté et de compassion. Et puis le visage est lié aussi à la personnalité, bien sûr, hein, et ça veut dire aussi quelque chose pour Dieu. Dernièrement, j'étais refaire des paires de lunettes, etc. Et là, eh bien, en fonction de la morphologie du visage, on vous conseille, voilà. On vous dit, tel type de lunettes, ça vous ira. Tel type de lunettes, ça va vous durcir, parce qu'on va s'adapter ainsi en fonction du visage, parce qu'il exprime, bien sûr, la personnalité, expression de... On parlait tout à l'heure de ce que Dieu n'est pas anonyme, puisqu'il a un visage. Il y a au moins une centaine de noms de notre Seigneur, une centaine de noms qui sont ainsi et qui définissent notre lieu. Vous en connaissez certainement, hein ? Dites-moi voir, des noms qui sont attachés à la personne de Dieu. Le Tout-Puissant, le Très-Haut, on y va, hein ? L'Éternel, comment ? Admirable, oui, conseiller Dieu puissant, El Shaddai, Yahvé, etc. Une centaine ! Et ça m'interpelle ce matin, finalement, face à notre épreuve. Dans notre épreuve, dans notre situation, Dieu sait se révéler de la meilleure façon possible. Excusez-moi l'expression, elle est peut-être maladroite, mais montrer son meilleur visage. Pour que dans ce que nous vivons, eh bien une partie de ce visage corresponde à nos besoins. Peut-être pour quelqu'un, ce matin, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Pour d'autres, c'est Jéhovah Jiré. Hein, celui qui pourvoit, un autre, celui qui guérit, celui qui console. Dieu est ainsi et il s'est adapté. Son visage, faire briller ce visage sur nos vies, sur nos moments, afin que nous puissions bien, là aussi, en être inondés. Et quelle que soit l'épreuve que je passe, quelle que soit la difficulté, eh bien, Dieu veut faire briller son visage sur moi ce matin. Amen. Une expression dans son regard, une parole qui va être adaptée à ce que je vis. On se souvient d'Élie, et là aussi de ce moment terrible dans sa vie, hein, en haut sur le mont Carmel, et puis quelques jours après, il est enfui dans le désert, parce que Jézabel lui a dit, bien, je vais te faire mourir, et il va se cacher. Et là, dans 1 Roi 19, il y a quelques expressions de Dieu à ce moment-là, qui va se manifester sous différents visages, on va dire ça comme ça pour nous ce matin, hein. 1 Roi 19, mais Dieu va adapter ce moment à ce que vit en ce moment Élie. 1 Roi 19, verset 11, et dit ceci. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. Mais l'Éternel, à ce moment-là, n'était pas dans le vent. Pourtant, on l'a dit ce matin, Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est un Dieu fort, un Dieu puissant. Mais là, eh bien, il n'était pas dans cette manifestation. » Ce n'est pas ce que Élie avait besoin à ce moment-là. On continue. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Je veux dire, c'est encore pire, hein, tremblement, à mon avis, hein, tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Il se souvient, Élie. Le feu est tombé du ciel là, il y a deux, trois jours. Mais là, il est dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il l'entendit, à ce moment-là seul, Élie l'enveloppa le visage de son manteau et il sortit. C'est à ce moment-là que Élie va sortir, lorsqu'il va reconnaître comme le visage de Dieu qui est adapté à sa situation à ce moment-là. Face à nos épreuves, ce matin, bien, Dieu sait s'adapter, Dieu sait se mettre à notre niveau pour que dans l'expression de son visage, eh bien quelque chose nous fasse du bien, quelque chose nous réconforte, quelque chose nous encourage. Amen. Et puis une dernière pensée, c'est que le visage, eh bien, il est mobile. Hein, en principe, il y a un coup et on peut tourner à droite, au moins à gauche. Il se tourne ou se détourne. Il se tourne ou se détourne. Face à la désobéissance d'Israël, Dieu... Eh bien, va détourner sa face. C'est exactement ce qui est dit. Hein. Vous lirez Lévitique 17:10 et d'autres. Il détournait sa face, ou il tournait sa face contre son peuple. Mais ce matin, le psalmiste ne dit pas que Dieu va tourner sa face contre nous. Il est dit qu'il va tourner son visage vers nous. Vers nous. Fais briller ton visage. Fais briller ton visage. Dieu donnera des instructions à Moïse sur la manière de bénir le peuple. Et dans Nombre 6, 24, 27, il va dire ceci, et je vais le lire, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi, pas contre toi, mais qu'il se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est une prière que Dieu a demandé à Moïse d'enseigner au peuple, pour que le peuple soit béni, pour que le peuple se bénisse, pour que le peuple se fortifie. Et je pense que ce matin, c'est une prière que nous pouvons aussi reprendre. C'est une prière que nous pouvons élever, Seigneur, de dire à notre frère, notre sœur, eh bien, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est dans Nombre 6, 24, 27, hein, si vous voulez retrouver cette prière de bénédiction. Et je crois que ce matin, eh bien, c'est l'état d'esprit de ce psalmiste, c'est notre état d'esprit. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Et la dernière pensée, que Dieu fasse briller son visage sur nous. Sur nous. Petit terrien, grain de poussière, herbe qui passe d'un coup. Moi, je me serais attendu que l'Éternel fasse briller son visage sur les anges, sur les archanges, sur les séraphins, sur les êtres célestes, sur les êtres qui sont dans la gloire. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Le psalmiste dit, Dieu va demander à Moïse de prier et de bénir le peuple. D'ailleurs, dans Ésaïe 6, il est même question que les séraphins qui ont six ailes, ils s'en servent de deux pour se voiler le visage, deux pour se couvrir les pieds, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Eux-mêmes n'ont même pas accès au visage, au trône de Dieu. C'est extraordinaire que Dieu, ce matin, puisse entendre et exaucer cette prière, que Dieu fasse briller son visage sur nous. Sur nous. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? D'ailleurs, dans la théologie de l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. On ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Hein, Dieu va dire à Moïse, pour le peuple, lorsqu'il monte sur la montagne 40 jours, surtout qu'il ne s'approche pas de la montagne, parce que tous ceux qui vont s'approcher de cette montagne vont mourir. Et puis le père de Samson, lorsque l'ange de l'Éternel l'interpelle, il dit à sa femme, mais j'ai vu Dieu et on va mourir. Vous voyez, sa femme qui a un peu plus de jugeote lui dit, mais écoute, si il en était ainsi, tu serais déjà mort, tu ne serais pas venu me voir. Hein. Donc bon, mais c'était la théologie de l'époque. On ne pouvait pas voir Dieu et puis vivre. Mais là, ce matin, il y a cette réalité. Seigneur, ce n'est même pas pour des anges, des archanges, des séraphins, des êtres célestes, que Dieu fasse briller son visage sur nous, sur moi. Sur vous, je veux dire, il y a un mot, hein, des VIP, very important person, ça c'est pour le carré ici-bas, mais on est plus que ça, nous. Dieu veut faire briller son visage sur nous. Sur, qui sommes-nous pour mériter un éclat de sa gloire, un éclat de sa présence? On n'est rien du tout. Et pourtant, c'est la prière de cet homme que Dieu fasse briller son visage sur nous. Amen. Alors, quelques réalités pour terminer. Qu'est-ce que cela implique dans nos vies, concrètement, quand Dieu fait briller son visage sur nous? Eh bien, dans les psaumes, il y a de belles expressions. Le psaume 4, par exemple, et le verset 7. Voilà ce qui nous est dit dans le psaume 4, verset 7. « Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, éternel. » Fait briller, associé ici au véritable bonheur. D'être satisfait, en fait, de ce que je suis devenu en Jésus-Christ. C'est ça le véritable bonheur. Je suis satisfait de ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Une nouvelle création, une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit, de nouveaux objectifs, une nouvelle perspective éternelle. Je n'ai même pas écrit de ce que j'ai obtenu en Jésus-Christ. Parce qu'en plus, c'est un plus. Les bénédictions, ce que Dieu nous accorde ici-bas, c'est extraordinaire. Mais on ne les amènera pas. C'est ce que je suis qui sera dans l'éternité. Une nouvelle création. Et ainsi, ce matin, bien, la lumière du visage de Dieu qui brille sur nous est associée à notre bonheur. Amen. Désormais, nous sommes une nouvelle création. Et ainsi, nous pouvons bénir et rendre grâce à notre Seigneur. Quelle belle définition du bonheur, être pleinement satisfait de ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Une nouvelle identité en Dieu. Les psaumes 31, 17, et puis il y aura aussi le psaume 80 et versets 4, 8 et 20, pour une deuxième pensée concernant cette lumière qui brille et ses conséquences pratiques sur nos vies. D'abord, le psaume 31 et verset 17, on dit ceci, « Fais briller ton visage sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » Psaume 80, verset 4, nous dit ceci, psaume 80, verset 4, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. » Verset 8, « Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. » Et le verset 20, « Éternel Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. » Amen. Associé au salut, associé à la grâce de Dieu. On le disait tout à l'heure, mais qui sommes-nous pour que Dieu fasse briller son visage sur nous ? Rien du tout, rien du tout. Nous sommes des pécheurs, oui, ça on le sait. Et pourtant, bien ici, c'est associé au salut. La première conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, c'est qu'ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Quotidiennement, tous les jours, Dieu se promenait dans le jardin et puis rencontrait Adam et Ève face à face, visage avec visage. Il y avait un dialogue, c'était extraordinaire. Et la première conséquence de cette désobéissance, c'est qu'ils ont fui. Ils se sont cachés de la face de Dieu, du visage de Dieu. Ils ne pouvaient plus le supporter, ne pouvaient plus le regarder en face. Hein? On connaît ça avec nos enfants, on était enfants, quand on avait quelque chose à se reprocher, on avait du mal à regarder en face. Il y avait quelque chose qui coinçait. Rapidement, la maman détectait quelque chose, hein, bien sûr, parce qu'on ne pouvait plus regarder en face. Mais ce matin, bien, ce face-à-face quotidien donc, avec Dieu a été rompu, bien sûr, avec Adam et Ève. Une rupture terrible, mais qui sera rétablie parfaitement en Jésus-Christ ce matin. Amen. Par la croix du calvaire, tout est accompli. Désormais, à nouveau, nous pouvons avoir des face-à-face avec notre Dieu. Désormais, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec lui. Et la lumière de Christ qui brille sur nous, de son visage, est associée à son salut. Nous sommes des rachetés, sauvés par grâce. Amen. Le psaume 44, verset 4. Encore quelques-uns et on conclut. Mais le psaume 44, verset 4, nous dit ceci concernant cette lumière qui brille. Verset 4. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils sont emparés du pays. Ce n'est pas par leur bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est ta lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Amen. Ici, bien, la lumière du visage de Dieu est associée aux victoires du peuple que Dieu aime, aux victoires que Dieu aime. Aux victoires du peuple que Dieu aime. Et quand quelque chose se produit dans nos vies, quand quelque chose là aussi qui donne gloire à Dieu, bien c'est toujours par sa bonne main. Je me souviens toujours, notre sœur Rosa est là ce matin, mais elle nous avait dit ce témoignage quotidien, hein, donc avec son rétroviseur. Hein, voilà, donc elle est sortie un jour un petit peu de son garage, et puis elle a oublié de remettre ses rétroviseurs en place. Voilà, donc... Donc elle est partie comme cela, et puis en s'engageant sur la bretelle d'autoroute, elle s'est aperçue que les rétroviseurs ne fonctionnaient pas, mais elle s'est dit « ça va être l'accident à coup sûr ». Et donc là, elle a crié au Seigneur d'un coup, voilà. Et à ce moment-là, le rétroviseur s'est mis en place. Alors elle a raisonné, il me semble, s'est dit « c'est peut-être un coup de vent, c'est peut-être une bosse, quelque chose comme ça ». Mais c'était ni une bosse, ni un coup de vent, c'était la main de Dieu. C'est la main du Seigneur qui était là. Et là, techniquement, elle n'avait pu agir rien du tout pour que ce rétro... Et Dieu a fait grâce. Et dans nos vies, il en est ainsi. La lumière de Dieu, de son visage qui brille sur nous, est associée à nos victoires. Amen. À nos victoires, que Dieu soit béni. Allez, encore combien ? Allez, encore trois. Psaume 89, verset 16. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui sait acclamer, il marche à ta lumière éternelle. Heureux le peuple qui sait acclamer, il marche à ta lumière éternelle. Amen. Associer ce matin à notre reconnaissance, à notre louange, acclamer, proclamer Dieu est donc une expression de joie et de foi. Il y a un chant qui nous dit, oui, parfois il m'en coûte d'offrir ma louange. Dans l'épreuve, il m'en coûte de pouvoir continuer à proclamer le nom du Seigneur. Il m'en coûte de garder la foi. Il m'en coûte d'avoir constamment les yeux fixés sur toi. Ce n'est pas toujours facile. On en parlait la semaine dernière. Oui, il y a des moments d'épreuve où nous sommes attristés, où nous sommes découragés. Ça m'en coûte. Mais malgré tout, même si nous avons des moments plus ou moins évidents, bien, la joie du Seigneur, la foi de notre Seigneur, ici va être révélée par cette lumière qui brille sur nous. Amen. Et ce matin, si on peut, malgré tout ce que nous vivons, louer, proclamer le nom de Jésus, c'est parce que son visage brille sur nous. Amen. Il se brille, ce visage qui nous réchauffe, qui nous restaure, son visage brille sur nous. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Notre visage ne se couvre pas de honte. Et il y a un effet de boule de neige. Plus son visage brille sur nous, eh bien, plus on le contemple et plus on réalise finalement bien qu'il est grand, qu'il est merveilleux, plus la foi grandit et ainsi plus cette réalité dans nos cœurs nous fait le proclamer. Et nous le proclamons encore ce matin. Le psaume 90, verset 8, nous dit ceci. Tous nos jours disparaissent à cause... verset 8. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Oui, il faut aussi reconnaître que quand le visage de Dieu brille sur nous, eh bien, cela révèle encore, oui, nos failles, nos faillites, nos désobéissances, nos péchés, nos horreurs. Heureusement qu'il y a aussi cet aspect. Heureusement qu'il y a aussi cette réalité. Et cela n'est pas là pour nous condamner, pour nous mépriser, mais au contraire, pour dire, ok, là, il y a une faille. Hein, c'est comme quand vous invitez quelqu'un, mesdames, et puis la nappe doit être blanche et impeccable. Alors vous la sortez de la machine à laver, je suppose, et ensuite vous allez l'exposer en plein soleil ou aux ultraviolets, enfin vous faites ce que vous voulez. Il ne faut surtout qu'il n'y ait aucune tache. Ce que vous allez recevoir mérite que ce soit le mieux pour eux. Et Jésus, bien parce que nous sommes ses enfants, nous méritons le mieux pour lui. Amen. Alors oui, il y a cet aspect, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Merci Seigneur, parce que ce qui ne te glorifie pas encore dans ma vie, eh bien, cette lumière qui brille ton visage va l'éclairer. Et ensemble avec toi, on va travailler dessus, jusqu'à ce que ça disparaisse, jusqu'à de l'antitâche, jusqu'à du pardon, jusqu'à des choses, de la proclamation d'une délivrance. Mais on va y travailler Seigneur, et je te remercie, parce que cette lumière de ton visage qui brille sur moi, ça fait partie aussi bien sûr de ce protocole pour ma sanctification. Et puis le psaume 119, et on termine après, par un dernier verset, peut-être qu'on pourra l'afficher, celui-là, c'est Apocalypse 22, 3, 5. Voilà, merci à Rouben. Psaume 119, verset 135, nous dit ceci, concernant une autre réalité glorieuse, Psaume 119, verset 135, voilà ce qui nous est dit, le verset 135. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Associées à la révélation de sa parole. Quelle grâce d'être aussi enseigné. Tout à l'heure, on parlait de l'expression des yeux qui expriment, mais la bouche, là aussi, notre Seigneur, eh bien, est une bouche remplie de sa parole, qui est là pour nous éduquer, qui est là pour nous enseigner, qui est là pour corriger également. Moïse a eu le temps, nous le savons, d'être inondé par l'éclat de la parole de Dieu. On le sait, elle était assise au pied de Jésus. Et j'aime bien cette image. Et Jésus ne va pas mettre en compétition Marthe et Marie, simplement que Marthe, parce qu'elle aussi avait un objectif. Il faut aussi comprendre, Marthe voulait accueillir de la meilleure façon Jésus. Marthe n'est pas mauvais dans sa conception, mais à ce moment-là, eh bien, Jésus va aider Marthe en disant, tu sais, finalement, ta sœur a choisi la bonne part. Elle a su se laisser aussi éclairer par mon visage. Elle a su se laisser éclairer par ma parole. Elle a choisi la bonne part à ce moment. Et ainsi, ce matin, eh bien, nous voulons aussi être éclairés par la parole de notre Seigneur. Amen. Alors, on conclut par une dernière parole. C'est dans Apocalypse 22, tout à l'heure, notre frère Yves en a cité aussi, et Apocalypse 22, versets 3 à 5, nous dit ceci. Nous sommes dans l'éternité, nous sommes avec Dieu, et voilà ce qui est écrit. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront son visage. Il n'est plus question de simplement l'éclat du visage. Mais là, il est question du visage en entier et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Il n'est plus question ici simplement de l'éclat, du rayonnement, de la gloire de Dieu, du visage de notre Seigneur, mais pleinement de son visage, pleinement de sa présence, pleinement de sa sainteté, de son autorité, de sa puissance, pleinement de son trône. Alors oui, pour l'instant, eh bien, on vit l'ombre des choses à venir. Mais dans l'éternité, eh bien, nous vivrons pleinement, tout pleinement et parfaitement. Oui, oui, pour l'instant, nous connaissons en partie. Mais dans l'éternité, nous connaissons parfaitement, on aura une connaissance parfaite et glorieuse. Pour l'instant, nous pouvons demander, nous pouvons prier pour que Dieu fasse briller son visage sur nous en attendant que nous puissions le contempler face à face, dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. Et là, nous pourrons supporter cet éclat de gloire éternelle, puisque notre corps sera transformé, puisque nous serons comme Jésus. Alors nous pourrons le supporter. Mais pour l'instant, même si nous attendons cette révélation glorieuse, nous pouvons demander cette prière de bénédiction que Dieu va enseigner à Moïse, eh bien qu'il fasse briller son visage sur nous. Amen. C'est de cette manière que ce matin nous voulons nous bénir, nous encourager. C'est de cette manière que nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Et c'est de cette manière qu'ensemble, ce matin, nous voulons persévérer. Amen. Qu'il fasse briller son visage sur nous ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons ce matin ensemble nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Et nous voulons proclamer comme cet homme de Dieu, Seigneur, fais briller ton visage sur nous. Fais briller la lumière de ta face sur nous. Fais briller l'éclat de ta splendeur, de ton visage sur nous. Merci Seigneur pour cette lumière qui inonde nos cœurs, qui inonde notre âme, qui inonde même notre corps dans le nom de Jésus. Nous voulons apprendre dans la foi à mieux te contempler, à mieux te servir. Qui sommes-nous, Seigneur, ce matin pour proclamer une telle prière? Tu aurais pu réserver ce privilège aux anges, aux archanges, aux séraphins, et pourtant, elle est pour nous cette bénédiction, elle est pour nous cette réalité spirituelle. Alors nous te prions ce matin les uns pour les autres, afin que tu fasses briller sur nous le visage, la lumière de ton visage, dans le beau nom de Jésus. Merci Seigneur de réconforter, de consoler, de fortifier, de montrer, d'aider à discerner Seigneur, en fonction de ce que nous vivons, afin que nous ressortions de ce moment renouvelé par ta parole dans le beau nom de Jésus. Nous te louons de tout notre cœur. Merci Seigneur. Amen. 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 Béni soit le nom de Jésus. Peut-être quelques prières pourraient monter vers le Seigneur encore ce matin dans ce sens. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Amen.